When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Swear.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast La Sueur. Toutes mes excuses à mon cher Ross, puisque j'ai été en retard pour l'enregistrement de ce podcast. Et monsieur est un homme pressé, un homme ponctuel. Et nous allons débuter, mon cher Ross, sur la catégorie Light Heavyweight qui enfin redevient excitante.
Ouais, bah, il se passe des trucs, en tout cas, bah, c'est le fameux « quand le chat n'est pas là, les souris dansent ». Et là, bah, là ça zouk comme jamais. Hein. En gros, là, John Jones a rendu son titre, et c'est comme si, bon, ça aurait pu être un peu avant, un peu après, ça se trouve, il n'y a pas de directe corrélation, mais déjà Anthony Johnson revient, bon, ça c'était un peu avant que John Jones rende sa ceinture, mais peut-être qu'il l'avait senti, on n'en sait rien. Anthony Johnson revient, et il a dit que ce sera en light heavyweight, donc déjà, c'est absolument énorme comme news. L'UFC a, bon bah, vu que ça faisait un petit bout de temps déjà que John Jones faisait son truc, ils ont déjà booké le combat Jan Błachowicz contre
Dominique Reyes.
Dominique Reyes. Et Ryan Bader aussi, il va de son petit billet en disant bah, maintenant, ça y est, c'est officiel, maintenant que John Jones n'est plus là-dedans, bah, le combat contre Vadim Nemkov qui arrive bientôt là, au Bellator, et ben, à mon avis, c'est celui-là pour. Pour le titre de meilleur light heavyweight du monde. Et en plus de ça, bah, ce qui est bien, c'est que la catégorie, elle commençait déjà à devenir un peu excitante avec des gars comme Magomed Ankalaev, avec Jiří Prochazka qui a frappé un énorme coup là récemment contre notre Volkan Ozdemir. Et là, tout ça, ça fait qu'effectivement, il se passe un truc et la catégorie, bah, c'est un peu comme pour ceux qui l'ont vu pour le film Sicario, le premier. Il y a un moment donné, une phrase, c'est Josh Brolin, je crois, qui dit ça, où, en gros, quand tu as un warlord, un mec qui est là, qui domine tout le monde, ben, c'est carré, tu vois, c'est organisé. À partir du moment où ce mec-là disparaît, c'est un peu comme un poulet sans tête, en fait. C'est le bordel partout, ça tire de partout, de machin. Ben là, c'est ça, en fait, ça tire de partout parce que le drug lord, bon, très mauvais jeu de mots, du coup. Mais... il est parti, tu vois. Il est parti, et donc là, ouais. Ça explose de partout, et ça va être intéressant. Je dis pas que c'est le parallèle, c'est pas que ce n'est pas dire que c'est intéressant pour les guerres de drogue, c'est pas ça. Mais vous avez compris.
Ouais, exactement. Et c'est là, je trouve toute la différence entre cette catégorie light heavyweight et la catégorie flyweight, qui s'est retrouvée plus ou moins morte, même si c'est clair, il y a Figueiredo qui est arrivé, tout ça. Là, il y a quand même un paquet de gars qui sont hyper bons. Et déjà, même là, on n'en a pas parlé, Thiago Santos qui affronte Teixeira pour revenir. T'as toujours les mecs comme Anthony Smith qui sont là quand même pour apporter leur petite dose d'excitation au niveau des combats. Et puis quand même, c'est vrai qu'Anthony Johnson, battu uniquement en light heavyweight par Daniel Cormier, le reste, il terminait absolument tout le monde par KO. Donc ça va vraiment être très, très excitant. Et puis surtout, moi, ce que je trouve qui est intéressant avec cette catégorie-là, c'est que là, à mon avis, tu vois, on va avoir une espèce de cycle, je pense, d'un an, deux ans, où justement, comme tu as dit, tout le monde va s'entretuer. Et ensuite, on va avoir un vrai patron. Et je n'exclus clairement pas un retour de John Jones chez les light heavyweight. Parce que tu vois, il n'a jamais eu de mal à faire le poids. Et au contraire, je pense que ça va. Lui, son challenge, ça va vraiment d'être arrivé comme un vrai heavyweight dans la cage, plutôt que ouais. De faire une espèce de montée où tu sens que le mec a pris du muscle, mais c'est un peu pâteau. Et donc, à mon avis, tu vois, le plan, c'est d'ici un ou deux ans, s'il a le titre heavyweight ou s'il a fait des grandes choses en heavyweight, c'est revenir en light heavyweight pour essayer un petit peu de boucler la boucle et de dire bon bah ok les gars, et c'est ce qu'on disait souvent dans les podcasts, c'est j'ai dominé la génération qui m'a précédé, ma génération, et là maintenant je mets un point final en dominant la next gen et puis maintenant je prends ma retraite.
Bah honnêtement, c'est vrai que s'il fait ça, alors là ce sera compliqué quand même de dire que ça n'est pas le plus grand de tous les temps, je pense. Parce que là, s'il fait ça, déjà, gagner le titre en heavyweight, c'est pas comme si c'était une catégorie faible en ce moment. Enfin, c'est-à-dire que disons, au moins au top, faut quand même passer sur Francis Ngannou et Stipe Miocic, probablement. Va falloir se lever de bonheur quand même. Enfin, honnêtement, c'est pas des petits clients. C'est bah, Miocic, probablement le plus grand heavyweight de l'histoire de l'UFC. Ngannou, peut-être le mec le plus flippant de l'histoire de l'humanité. Enfin, on sait pas, faut voir. donc, c'est quand même pas évident. C'est vraiment pas évident. Donc, s'il fait ça, qu'il revient et qu'il bat le mec qui se sera installé dans la catégorie, qui aura pris place sur le trône et qui s'y sera vraiment bien installé, alors là, bon, là, personne, je pense, ne pourra plus rien dire, à part bien sûr le fait que bah, il y aura toujours, maintenant et à jamais, cette espèce de nuage de performance enhancing drugs et de, ouais, c'est ça, de stéroïdes. Mais c'est vrai que du point de vue, comment dire, dans la cage, du point de vue des skills, du point de vue de ce qu'il aura accompli, bon, là, ça va être compliqué d'aller le chercher, quoi.
Donc avant, on s'intéressait à Dominic Reyes contre Jan Blachowicz. Pourquoi ce passage maintenant en heavyweight de John Jones? Déjà, ça veut dire, mine de rien, que les discussions pour Francis Ngannou étaient entre guillemets réelles. L'UFC ne voulait pas faire le combat parce qu'il n'y avait pas assez d'enjeux. Là, le plan de Dana White, enfin, de ce qu'il a dit, c'est Francis Ngannou a d'abord le title shot, ensuite à John Jones. On peut sous-titrer, si vous voulez, d'abord Ngannou met son gros KO à Stipe Miocic et ensuite on fait ce combat-là pour la ceinture. Pourtant, pourquoi est-ce que maintenant John Jones fait sa montée alors que c'est vrai, quelque part, moi j'en suis ravi, mais ses dernières performances en light heavyweight, tu vois, c'est on va pas dire qu'on attend ça avec moins d'impatience, mais c'est pas moins encourageant, mais on a plus un petit peu peur de se dire, bon bah il a galéré contre Thiago Santos, il a galéré ensuite contre Dominic Reyes, et là il fait sa montée.
Ouais,
c'est un gros pari quand même.
Ouais, c'est un gros pari. En fait, je sais que je vais me faire catapulter pour ce que je vais dire et que beaucoup de gens ne vont pas kiffer à mon avis, mais je pense que juste, il s'ennuyait en fait. Je pense qu'il s'ennuyait et que c'est une des raisons pour laquelle, clairement, et le combat contre Thiago Santos et le combat contre Dominic Reyes, c'était pièce de monnaie, voire même certains les donnaient à l'un et à l'autre, enfin, disons, à Santos et à Reyes. Mais je pense que c'est plus un cas de John Jones qui ne trouvait aucune motivation pour s'entraîner, qui ne trouvait aucune motivation pour ces combats-là, qui a fait que ça a été peut-être aussi, comment dire, aussi serré. Et je me dis, ce qui lui manque peut-être, c'était effectivement un vrai challenge. Ce qui lui manquait peut-être, c'était quelque chose qui lui fasse se lever le matin en disant « Ok, là, je flippe », ou alors « Là, il y a vraiment quelque chose à aller chercher ». Et je ne pense pas que ce soit un facteur qu'on puisse complètement balayer, le facteur motivation, le facteur est-ce que tu as vraiment envie de progresser? Est-ce que tu as vraiment envie de te dépasser quand tu domines et tu n'as pas besoin de te pousser? Donc, c'était le cas avant Thiago Santos et avant Dominic Reyes. Bah, c'est pas sûr et je pense que ça doit rentrer en ligne de compte. Donc là, à mon avis, j'espère, mais je pense que c'est possible, que quand il va monter en heavyweight, là, les enjeux sont… tu n'as pas le droit à l'erreur, tu vois. Quand tu combats Francis Ngannou, tu peux pas te dire « moi, je m'entraîne à moitié », parce que si tu t'entraînes à moitié et qu'il te chope, bah, bon, tu perds des années de vie en bonne santé quand même. Ouais. Donc, je pense vraiment, en plus, au-delà de la dimension physique, on va peut-être découvrir un nouveau John Jones, mais je pense qu'on va avoir quelque chose de neuf.
Et ce qui est aussi intéressant, moi, je trouve, c'est qu'il n'a pas du tout l'air de vouloir rusher cette montée en heavyweight, tu vois. Ouais. Il a vraiment dit, maintenant, je fais ma montée, on se retrouve dans quelques mois. Il n'a pas non plus, tu vois, dit, bah, Miocic, directement, je prends le titre, ou Francis, allez, bim, bam, boum, je te balance une. Maintenant, on sent que vraiment, le gars, il veut prendre le temps. Et surtout, et c'est vrai que là, pour moi, ça va être son très, très gros challenge, c'est John Jones arrive à faire le poids assez tranquillement des 93 parce que le haut du corps est massif, mais c'est vrai qu'au niveau de ses jambes, tu vois, c'est pas un mec qui a deux énormes poteaux, tu vois. Ouais. Et comment va-t-il faire pour réussir à gagner du poids sans que les jambes prennent non plus trop cher, tu vois, parce que va falloir ensuite qu'il se trimballe ce poids-là. Donc ça va être, je pense, assez intéressant de voir la transformation ces prochains mois.
Et c'est vrai qu'à la limite, ça peut être une source, pas d'inquiétude, mais de… Parce qu'on a Georges Saint-Pierre quand même comme expérience d'une personne qui fait un certain poids, qui a un physique qui n'a pas l'air d'être un physique, alors je ne sais plus comment est-ce que ça s'appelle, mais qui peut bouger vraiment facilement. Et John Jones, je ne sais pas quel type de comment dire, comment est-ce qu'il encaisse une montée en une prise de masse, ou comment est-ce que son corps gère ça. Mais on a quand même cette expérience de Georges Saint-Pierre qui a voulu gagner de la masse, qui a voulu gagner du poids, qui avait bah, probablement les meilleurs experts avec lui pour le faire, et pourtant, qui a été, ça a été une horreur. Ça a été une horreur, ça n'a pas marché. Le jour du combat et la semaine d'avant, ça a été absolument terrible pour son corps. Et en fait, je me dis, John Jones, je ne sais pas si c'est, entre guillemets, faisable. Je ne sais pas s'il prend de la masse suffisamment pour être un vrai, entre guillemets, heavyweight, et quelque chose que son corps acceptera. Et donc, si ce n'est pas le cas, et qu'en gros, on va juste trouver le John Jones qui ne cut pas de poids, mais qui sera, entre guillemets, le même, est-ce que ça, c'est suffisant, heavyweight ? C'est pas mal de questions qui... va falloir voir.
Qui nécessite quelques réponses. Non, parce que, oui, c'est ce qu'on veut dire avec Ross, c'est que je pense qu'à mon avis, sans trop de soucis, les 105 kilos, il les fait. Voilà, ouais, parce que c'est ça, de toute façon, c'est son poids normal. Mais après, je pense que s'il veut vraiment avoir un run vers le titre, il faut qu'il soit à 110, quoi. 110, 115. Enfin, allez, 112. Il faut qu'il soit à 112. Et là, peut-il être à 112 en étant à l'aise? Parce que s'il combat Ngannou, il sera obligé de faire de la lutte. Et donc, un John Jones de 112 kilos, donc 20 kilos de plus, grosso modo, enfin, un petit peu moins, bien évidemment, que lorsqu'il est en light heavyweight, peut-il tenir la cadence face à un Francis Ngannou qui ne va pas se faire terminer en un round ou deux?
Ouais, c'est toute la question. Hein. C'est vraiment toute la question.
C'est la question à 100 000 dollars. Enfin, même plus.
Plusieurs millions, là. Ouais. Ouais, parce que il y a le facteur financier aussi, probablement, de ce pourquoi John Jones monte.
Ouais. En tout cas, je suis excité. Mais vraiment... Par cette montée, parce que là, ça apporte un petit peu de fraîcheur à la catégorie. Cela dit, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais pour moi, tu as Miocic, Ngannou, et après, clairement, ça se tasse beaucoup, parce que tu vois, on parle de renouveau de cette catégorie heavyweight, mais là, pour moi, avec la montée de John Jones, maintenant, tu as trois gars. Avant, tu avais Cormier, mais ce que je veux dire, c'est que là, à part ces mecs-là, le reste, personnellement, moi, je trouve qu'ils sont assez limités. T'as Cyril Gane-Karib, parce que c'est un prospect, on n'a jamais vu ça. Mais même au-delà de ça, à l'UFC en ce moment, je trouve que dans les mecs qui arrivent et où tu te dis, bah, t'as un gars qui a le full package, qui peut être champion, ou tu vois qu'il y a vraiment quelque chose de spécial, bah, je trouve qu'il n'y a pas grand monde.
Ouais. Bah, en tout cas, de toute façon...
C'est pour ça aussi que j'étais content qu'Anthony Johnson, quand il devait monter à la base, il avait dit, je monte en heavyweight. Et là aussi, j'étais content. Et nous avions fantasmé d'un Anthony Johnson, Francis Ngannou.
Et ouais, bon, bah, peut-être, on peut peut-être, comment dire, le garder quelque part dans les tiroirs, mais c'est vrai que, bon, bah, si Anthony Johnson, il a pour projet d'aller chercher le titre en light heavyweight, bah, ça veut dire qu'il va peut-être y rester, bah, au moins quelques années, au moins un an ou deux, histoire de dégommer quelques contenders. Et donc, bon, bah, c'est peut-être quelque chose qu'on aura dans un futur un peu proche. Mais ouais, sinon, en fait, je suis d'accord, il n'y a pas un heavyweight là, parce que c'est vrai que Cyril, voilà, évidemment, il est français, cocorico, mais on attend encore, évidemment, comment dire, les confirmations, on attend encore quelques combats. Il n'y a pas un combattant en poids lourd là où on se dit c'est le renouveau, c'est lui qui va prendre en charge, prendre en main la catégorie, où on va avoir quelque chose d'unique. Il n'y a pas ça, tu vois. Honnêtement, par exemple, en light heavyweight, je me dis, bah, vu ce qui...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Qui vient de faire contre un mec d'aussi haut niveau que Volkan, un mec comme Jiri, tu vois, j'ai un peu cette sensation de OK, là, on a quelque chose de vraiment, vraiment lourd. On a quelque chose de vraiment intéressant. En poids lourd, il n'y a personne qui donne cette sensation de puissance en devenir. Donc, ouais. C'est vrai que ce sera probablement un ménage à trois, du coup, avec.
Ménage à trois. Ouais, exactement. Mais ouais, non, mais je suis bien d'accord avec toi de toute façon. C'est pour ça que je pense que la montée de John Jones chez le lourd, tu vois, ce sera un petit run de quoi... Ouais, je pense vraiment un ou deux ans max, tu vois, le temps qu'il nettoie la catégorie... Enfin, nettoie. calmer, qui fasse, tu vois, qui prenne la ceinture, peut-être une défense de titre, et ensuite qui descende à nouveau. Parce que c'est vrai que t'as pas tant de combats excitants. Même le combat, tu vois, le fameux combat contre Brock Lesnar, je pense, à mon avis, que c'est terminé, de toute façon. Oui. On est d'accord, donc Brock Lesnar, game over. Et il y a, chez les Light Heavyweight, c'est la prophétie, peut-être autoréalisatrice de... Comment ? De la sueur. Dominic Reyes contre Blachowicz pour la ceinture Light Heavyweight. C'est acté par l'UFC. Et je pense, pour ma part, que Dominic Reyes, ça peut vraiment être celui, tu vois, qui va... Moi, c'est Dominic Reyes ou Thiago Santos, sur les deux, à mon avis, qui ont une chance vraiment de, tu vois, d'ici un ou deux ans, une fois que tu auras eu tous les combats, toutes les guerres, les deux mecs qui seront au top, je pense que ce sera un des deux. Et peut-être plus Dominic Reyes, parce qu'il a la fraîcheur physique que n'a pas Thiago Santos, 36 piges, il sort, tu vois, d'un an parce qu'il s'est pété les deux genoux contre John Jones. Bon.
Donc d'ici un ou deux ans, tu vois soit Reyes, soit Santos sur le trône et bien assis ?
Ouais, exactement.
Ah.
Oh. Non, parce que Jerry, en fait, j'ai confiance en lui, mais... comment ? Non, mais tu vois, j'ai confiance, mais le fait, toutes ces arabesques, je pense que ça va lui jouer des tours. Et puis même...
Waouh.
Et le premier round, mine de rien, contre Volkan, il se fait quand même pas mal toucher.
Ouais, c'est quand même Volkan en face, c'est quand même un top 5. Du coup, en fait, c'est ça qui m'impressionne, c'est que il est capable de faire ça, Prohaska, contre un mec qui est aussi bon, justement. Et objectivement, et c'est pas parce qu'on le kiffe, mais objectivement, Volkan, c'est top 5. Et le fait qu'il soit capable de faire ça dès son premier combat à l'UFC, en fait, c'est ça qui me fait me dire ah ouais, enfin, à 27 piges, d'accord, quoi.
Oui, mais dans le sens, moi, c'est plus, tu vois, ça c'est un risque. Enfin, il a été un petit peu dans le dur contre Volkan en voulant se faire toucher, en faisant en sorte que Volkan, tu vois, déclenche tout ça. Il s'est fait toucher, mais ça faisait partie de son game plan. Je pense que tu fais la même chose face à Thiago Santos ou Anthony Johnson. Ça passe pas.
Johnson, en fait. Non. Oui. Johnson, non.
Bah même Thiago Santos, c'est un mec, il a l'habitude que ce soit le bordel.
Ouais.
Regarde, c'était quoi ? C'était le combat contre... Un des chouchous de Rust qui a maintenant pris sa retraite, un Britannique, moins de 93 kilos, qui avait combattu aussi Rumble et qui a combattu Thiago Santos.
Jimmy Manua,
exactement. Ce combat-là, les deux, c'est quoi ? Le combat, il dure un round, deux rounds, c'est le chaos de tous les côtés, c'est n'importe quoi. Mais tu vois, Thiago Santos, il adore cet environnement-là. Donc je pense que tu pourras pas lui faire la même chose. Donc c'est pour ça. Mais Rust, mets une petite pièce sur Jiri, alors ?
Moi, j'ai envie de mettre une pièce sur Jiri, ouais. J'ai envie de voir, en fait. J'ai envie de voir ce qu'il donne sur le prochain combat qui sera donc... Honnêtement, là, il y a moyen qu'il soit à un combat du title shot. Hein. Enfin, après une victoire contre Ozdemir. Et donc, j'ai envie de voir ce qu'il donne. J'ai envie de voir ce qu'il donne parce que je pense qu'il apporte quelque chose. Mais après... Après, en fait, il y a un truc aussi que je n'ai pas réalisé, mais c'est qu'on est en train de faire tout un foin sur Donnie Johnson, mais il a quand même 36 piges, en fait. Je n'avais pas réalisé. Il a 36 ans.
Ouais. Ouais, c'est mais... C'est énorme.
Pour un mec explosif, en fait.
En fait, je suis très confiant. Je suis très confiant pour Anthony Johnson parce que, mine de rien, les deux combats contre Daniel Cormier, pour moi, c'est plus Anthony Johnson qui les perd que Daniel Cormier qui les gagne. Et ça, surtout le deuxième, on était dégoûtés. Pas parce que... là encore, la sueur. Défenseur officiel et membre du fan club Daniel Cormier, attention, parce que maintenant c'est Non mais franchement, les deux combats, c'est horrible. Vous regardez le truc, et même Daniel Cormier, il l'avait dit, il y a la tempête, et puis ensuite il présente son coup, et je n'ai plus qu'à le saisir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Premier combat, donc il met quand même knockdown Daniel Cormier. Daniel Cormier qui avait dit avant le second combat, ouais, non, il frappe pas fort et tout, il y avait eu les mêmes qui étaient sortis, c'était magnifique. Le deuxième, il pète le nez de Daniel Cormier sur un head kick. Premier round, clairement, c'est que du Anthony Johnson. Et deuxième, t'as une espèce de faille psychologique. Enfin, le néant, et le mec tente un takedown face à Daniel. Non, même pas ça, non. Il touche Daniel Cormier, et ensuite, il se met à lutter contre la cage, et ensuite, il tente le takedown. Pourquoi ? Il y a ce pauvre Henry Ouf qui était en train de s'arracher les cheveux dans le corner, en train de dire, mais qu'est-ce que tu fous ? Puis à la fin, Anthony Johnson qui donc prend sa retraite et s'excuse auprès d'Henry Ouf, mais... incompréhensible, tu vois.
Ouais, mais ça peut être un facteur, la peur de gagner, tu sais.
Ouais, peut-être.
Ça peut être un facteur. Quand je joue au foot, je me souviens qu'il y en avait pas mal qui avaient ce truc-là, en gros, la peur de ne pas marquer de but. Enfin, la peur de marquer un but, justement. C'est-à-dire que tu dis, putain, je vais marquer. Et en fait, tu tires à côté, tu vois. Et en fait, ça se trouve, Anthony Johnson, c'est ça. C'est peut-être, il n'est peut-être pas fait pour le titre, en fait, tout simplement. Et ça se trouve, même quand il va être dans une... Parce que c'est difficile de faire une situation où tu domines plus que lors du second combat contre Cormier, tu vois. Et du coup, je me dis, bah, si, même dans une situation où clairement il est dominateur de ouf, il est capable de faire un truc comme ça, bah, il le fera probablement contre tout le monde, enfin, peut-être. Ou alors, c'est une faille psychologique en mode, c'est pas forcément le titre, c'est « putain, je vais gagner le titre en battant Daniel Cormier, qui est une légende, etc. » Donc, si c'est contre des gens pour lesquels il a moindre, entre guillemets, de respect, ça se trouve, ça va le faire. Faut voir.
Ça, ou peut-être... Moi, c'est l'autre chose où là, je te rejoins un peu, si c'est ce que tu voulais dire, c'est... Je pense que Anthony Johnson, tu vois, peut peut-être pas durer 5 rounds. Et le fait, tu vois, de dire, ok, je domine de la tête et des épaules le combat, mais DC est toujours là.
Ouais.
Et clairement, il n'est pas proche de se faire finir.
Ouais, c'est vrai que ça doit être terrifiant, ça.
Ouais. C'est vrai. Et tu te dis, oh merde, là, j'ai tout balancé, le mec est toujours là, ça veut dire qu'il me reste 4 rounds avec DC.
Ouais.
Tu vois, je pense qu'il y a cette envie de se dire, je préfère finir honorablement par une soumission, tu vois, et je tape 3 fois plutôt que de me faire ground and pounder, quoi.
Ouais, non, c'est sûr. C'est vrai. Et c'est là où c'est intéressant aussi de faire un très rapide parallèle avec Francis Ngannou, pour lequel ça n'est pas du tout le cas.
Ouais.
Francis Ngannou, il est en mode, bon, bah clairement, j'arriverai pas... C'est même pas j'arriverai pas à le finir, parce qu'en fait, même au cinquième round, il est en mode, je vais te terminer. Mais il est conscient que même s'il a plus de gaz, même s'il est complètement à l'article de la mort, même s'il se fait grand unpandé, jamais il abandonne. C'est quand même stylé.
Ouais. Complètement. Je suis bien d'accord. Avec toi, donc pour finir, donc Dominic Reyes, Jan Błachowicz, le combat le plus excitant de l'année, UFC 253 comme main event.
C'est ironique ou pas?
Et, effectivement, ouais, complètement. Ouais. Non, honnêtement, moi, j'ai la seule pseudo-excitation que j'ai par rapport à ce combat, c'est comment tu vois, on peut dire qu'il va se dérouler debout. Mais ouais. Clairement, tu vois, Błachowicz, pour moi, il bénéficie d'un concours de circonstances en sa faveur qui fait que le seul mec qu'on a vraiment pu mettre dans la sauce, c'était Corey Anderson. Et Corey Anderson, bah, tu sais, il n'a pas été, j'ai trouvé, pour ma part, très intelligent lors du combat. Enfin, dans le sens, il n'a pas utilisé sa lutte à bon escient, j'ai trouvé. Et donc là, bref, Jan Błachowicz se retrouve en position title shot face à Dominic Reyes. Bon, sur le papier, je trouve que c'est très bien pour Dominic Reyes pour entamer un run en tant que champion.
Ouais. Bah, ouais.
Oh là là.
Je sais pas quoi dire de plus. Enfin, oui, c'est cool. Mais c'est vrai que j'ai tellement aucune excitation. Enfin,
Oui, non, mais c'est terrible. Mais c'est terrible parce que t'as quand même deux mecs là qui. Ouais. Honnêtement, Dominic Reyes, il est vraiment très bon. Je pense que ça va être compliqué de le bouger. Mais c'est, pour l'instant, en tout cas, c'est pas du tout un gars qui.
Bah, qui va déplacer les foules, quoi.
Exactement, qui va tout simplement déplacer les foules. Toutes ses déclarations depuis qu'il a perdu contre John Jones, bah, il ne parle que de John Jones. Donc, ouais. À un moment donné, il faut...
Et puis là, il est en... En fait, moi, c'est personnellement, c'est... Je sais que ça devrait peut-être pas rentrer complètement en ligne de compte, mais au niveau personnalité, en fait, j'accroche pas du tout. Et du coup, ça joue, en fait. Ça joue sur le fait que j'ai pas envie de regarder, quoi. Mais là, par exemple, tu vois, il vient de dire... Ouais, la raison pour laquelle John Jones m'entend heavyweight, on va pas se le cacher, c'est à cause de moi, tu vois.
Oui, ah oui.
Bah, c'est dommage parce que t'as fait un combat de ouf contre John Jones. Là, t'as l'occasion d'être un gars que tout le monde regarde depuis le bas. Tu vas être en mode ah ouais, ok, cette personne-là, c'est ça qu'on veut devenir en tant qu'être humain, un mec humble, il aucune excuse, objectif, lucide, mais en même temps un putain de bosseur et tout. Et il te sort un truc, clairement, là, ça veut dire que, je sais pas, il voit pas les choses de façon lucide. Je pense que John Jones, à mon avis, le dernier truc auquel il pense en ce moment, c'est Dominic Reyes, tu vois. Et en fait, c'est ça qui me gêne un petit peu avec Reyes, c'est ce côté, c'est ce qui fait que j'étais pas fan avant, même si j'adore son style de combat, mais que j'étais pas fan avant, que je le suis moins encore maintenant, c'est sa personnalité, en fait. Enfin, je j'accroche pas, quoi.
Non, c'est clair. Après, je me dis, peut-être. Je garde l'espoir que, tu vois, comme justement le gars aujourd'hui, il n'a pas énormément de fans, les gens ne parlent pas beaucoup de lui, c'est peut-être aussi un moyen d'attirer l'attention. Certes, très mal, mais tu vois, c'est de se dire, il vaut toujours mieux qu'il y ait un petit peu de presse à mon sujet plutôt que personne ne parle de moi. Et donc, le seul moyen aujourd'hui pour faire en sorte que MMA Fighting, MMA Junkie et les autres médias sportifs parlent de moi, c'est justement quand je clash John Jones. Parce que, une fois, à un moment où il aura le titre ou qu'il aura accompli quelques véritables choses dans la cage, bah, à un moment donné, les gens lui poseront des questions sur lui et pas sur John Jones aussi.
Ouais.
Enfin, c'est ce que j'espère en tout cas.
Ouais. Mais dans ce cas-là, je comprends. Mais j'aurais presque préféré qu'il dise, s'il veut faire une headline, il dit juste, bon ben voilà, Jan Błachowicz, c'est la première pierre de mon règne et qui va durer un bon bout de temps, tu vois, jusqu'à ce que John Jones revienne et je le démonte. Tu vois, enfin, je pense qu'il aurait pu. Hein.
Complètement. Eh ouais, ouais, bah.
Il faut qu'il nous engage comme Pierre.
Tout... Exact. C'est ce que j'allais dire. Il sait où nous trouver s'il a besoin de quelques conseils. Mais donc, Yann Bakovic qui l'affrontera. Thiago Santos, ensuite de Glover Teixeira, pour le prochain title shot de la catégorie, selon toute vraisemblance. Puis après, c'est là que tout restera ouvert, parce que là, par contre, le petit Dominic Reyes, Thiago Santos.
Ouais, ça va être sympa.
Bon, celui-là est déjà intéressant, et c'est pour ça que je trouve que c'est pas mal. C'est Glover Teixeira, mine de rien, qui est revenu en très grande forme hein, pendant le confinement. Hein. Il a su profiter à merveille de cette pause pour se recentrer sur ses entraînements. Et le fait qu'il revienne face à Thiago Santos, je trouve que c'est un super test pour Thiago Santos, tu vois, de se dire, après plus d'un an d'absence, voir comment les deux genoux sont tout simplement. Est-ce qu'il a eu une très bonne période de récupération, tout simplement? Et est-ce qu'il peut surtout entamer un nouveau run? Et surtout, s'il n'a pas cette peur, tu vois, de se péter? Parce que c'est vrai qu'avec son style, si tu as un petit peu d'appréhension, je pense que ça peut être très, très compliqué.
Ouais, c'est clair. C'est clair. Non, pour Santos, ça va être vraiment intéressant de voir comment il revient. Parce qu'effectivement, on va en savoir beaucoup sur son caractère. Quand il va revenir, parce que moi je pense que de toute façon c'est tellement un taré qu'il va revenir complètement prêt à en découdre et qu'il va rebalancer ses jambes comme Jaja, je pense, mais peut-être que je me trompe, mais c'est vrai que ça va être intéressant de voir justement, on va en savoir beaucoup sur la personne qu'est Thiago Santos après ça.
Exactement. Bien, Inch'Allah tout m'a fait peut-être content du bonsoir avec le connaisseur. Ah, mais c'est peut-être qui vient de signer Israël Adesanya.
Oui, bon, j'ai vu ça. Mais bordel.
Eh oui. Est-ce qu'on est pour quelque chose? Eh bien. Et Venom, tout simplement. Lien dans la description. Sponsor de l'UFC. Sponsor de la sphère.
Et bientôt sponsor aussi d'Israël Adesanya, puisque l'UFC. Donc en fait, Adesanya veut nous rencontrer, je crois.
Je pense nouvelle. Aussi. Se pense, mais là aussi, un mail, c'est beaucoup plus simple, Israël, il n'y a pas de souci. Bien. À très vite.
À très vite.
Soit.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.